explorer de nouveaux mondes étranges.
Ah, la vie, quel spectacle!
L'homme de science a toujours été un aventurier.
Je suis prêt.
C'est l'histoire d'une étudiante en licence qui, dans le cadre du programme d'échange Erasmus, opte pour une destination étonnante. Alors que bon nombre de ses camarades choisissent d'aller étudier quelques mois dans une ville au climat doux et ensoleillé, à Barcelone ou à Rome par exemple, elle choisit de faire son Erasmus dans l'université la plus au nord de la planète, au Spitsberg, une île de l'archipel du Svalbard, située entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Un peu givrée, notre étudiante, non, Heidi Sevestre, c'est son nom, est simplement passionnée par les glaciers depuis sa plus tendre enfance. C'est dans les montagnes de Haute-Savoie où elle a grandi qu'est née sa passion. Alors pour elle, le Spitsberg, eh bien c'est le paradis. D'ailleurs, elle y retournera pour y faire sa thèse pendant 4 ans. Aujourd'hui, Heidi Sevestre est devenue glaciologue. Elle a arpenté des glaciers sur tous les continents et elle partage son temps entre expédition et vulgarisation scientifique pour alerter le grand public sur les effets du changement climatique sur ces géants de glace. Cet après-midi, du Spitsberg à l'Himalaya, en passant par l'Antarctique, la Cordillère des Andes ou encore les Alpes, Heidi Sevestre nous emmène à la découverte des glaciers de notre planète. Et en fin d'émission, nous retrouverons comme tous les lundis, Éric Birloez pour sa dernière odyssée savoureuse de l'été. Il nous emmènera sur les routes de la Grenade. Voilà pour le programme de cette émission préparée par Sophie Vaux et réalisée par Marion Le avec à la technique Arnaud Caillé. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Ah. On entend gronder un... Ah. Regardez là-bas, la falaise de glace qui s'effondre. Là, en direct. Il y a carrément le front de glace qui vient, une partie de front de glace qui vient de s'effondrer dans la mer. Ça continue, on entend. Voilà, c'est... Il est très très beau. Alors là, on est peut-être à 2-3 km du front, mais d'ici quelques minutes, on va avoir un contre-coup de cet événement, de cette chute de glace dans l'eau par une vague qui va arriver. Alors évidemment, si on est très près du front, qu'un gros morceau tombe dans l'eau, cette vague peut être importante et peut balayer complètement une plage.
L'écrivain et explorateur Emmanuel Husney en kayak le long d'une côte du Spitsberg, l'île principale de l'archipel du Svalbard. Bonjour Heidi Sevestre.
Bonjour Daniel.
Alors nous commençons donc notre voyage par cet archipel du Svalbard que vous connaissez bien. Après y avoir effectué une partie de vos études, comme je le disais, vous y avez mené plusieurs expéditions. Décrivez-nous les lieux.
Le Svalbard, c'est vrai que c'est un endroit où j'ai une grande partie de mon cœur. C'est déjà à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Et c'est une terre qui est très peu civilisée, qui est vraiment dominée par ses conditions polaires, par la neige et par la glace. Et ce qui me touche particulièrement par rapport à ces paysages, c'est qu'on a du mal à s'imaginer, mais c'est un peu comme si on avait les Alpes au beau milieu de l'Arctique. Mmh. Tout est de roche, tout est de glace, tout est de neige.
Ouais. Les terres recouvertes de glace à 60%. On est déjà dans l'Arctique quand on est là?
Complètement, on le qualifie comme le haut arctique norvégien. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de végétation. La première fois que j'y suis allée, je me souviens être choquée par l'aridité de ces paysages. On a vraiment l'impression d'être téléporté sur une autre planète. Mmh. C'est d'une beauté à couper le souffle. Et j'ai la chance d'y aller maintenant depuis presque 13 ans. Ça fait un petit bout de temps. Et à chaque fois, j'ai la mâchoire qui se décroche quand je regarde ces paysages, c'est sûr.
Alors c'est aussi un peu le royaume des ours polaires. Il y a finalement plus d'ours que d'humains qui vivent sur cet archipel.
C'est exactement ça. Et ce que j'aime dans ces paysages-là, c'est justement que la nature est beaucoup plus forte que nous. Et on est là-bas, en effet, au royaume des ours polaires. On peut les croiser un petit peu n'importe où, même dans la petite ville principale qui s'appelle Longyearbyen. Mais c'est vrai que quand on est glaciologue comme moi et qu'il faut aller parcourir les glaciers, croyez-moi, on sait qu'on est dans le royaume des ours et c'est toujours un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de notre tête.
Oui, parce que ça peut être dangereux de croiser la route d'un ours polaire.
C'est vraiment le top de la pyramide, cet animal au Svalbard, complètement. Ouais. Et il le sait, c'est vrai que on ne sait jamais à quel type d'animal est-ce qu'on va avoir affaire. Est-ce qu'on aura un ours plutôt curieux, plutôt sympa, plutôt paresseux ou plutôt agressif? Et ça arrive malheureusement pratiquement chaque année qu'il y a des attaques d'ours qui ont lieu au Svalbard.
Alors ce lieu, avec toutes ses particularités, est aussi particulièrement intéressant pour les glaciologues. Pour quelles raisons?
Oui, alors en effet, la première raison, c'est déjà qu'il y a énormément de glace là-haut. Vous l'avez bien dit, 60% des terres du Svalbard sont recouvertes de glace. Donc c'est vraiment le paradis des glaciologues. Mais aussi, il faut savoir que le Svalbard, donc dans ce haut arctique norvégien, est l'endroit sur Terre qui se réchauffe le plus rapidement aujourd'hui. Donc ça en fait vraiment un laboratoire parfait pour étudier toutes les conséquences du dérèglement climatique sur les glaciers de l'Arctique.
On parle parfois, hein, c'est une image, mais d'épicentre du changement climatique. Quand vous dites que c'est plus rapide sur cet archipel, dans quelle mesure c'est plus rapide ?
Oui, alors c'est terrifiant. Quand on regarde la région arctique tout entière, cette région se réchauffe aujourd'hui 3 fois plus vite que la moyenne planétaire. Et quand on zoome encore un petit peu plus sur cet archipel du Svalbard, là où on trouve le Spitzberg, cet endroit se réchauffe aujourd'hui 6 à 7 fois plus vite que la moyenne de toute la planète.
Ah oui.
Donc tout se passe extrêmement rapidement là-haut.
Alors vous y étiez au Svalbard en avril dernier pour une expédition. Quel était le but de votre expédition ?
Ah, alors c'était vraiment une expédition extraordinaire à but multiple. Mais pour résumer, on était une expédition scientifique 100% féminine qui cherchait à montrer que la science, même dans ces régions particulièrement extrêmes, peut se faire de façon la plus propre, la plus respectueuse possible de son environnement, en faisant tout notre possible pour être neutre en carbone.
Alors, cette expédition 100% féminine, ça rappelle la toute première expédition polaire menée par une équipe composée uniquement de femmes. L'expédition était dirigée par la chercheuse Madeleine Griselin. C'était en 1986. Elle était partie justement du Spitzberg, Madeleine Griselin, avec son équipe, pour atteindre le pôle Nord en évoluant sur la banquise. Je vous propose de l'écouter, expliquant juste avant son départ en 1986 comment elle avait pensé cette expédition.
Quand j'ai commencé à penser à ce projet, j'ai pensé surtout à étudier comment est-ce qu'on pourrait étudier la banquise. Et mon idée première était de mesurer l'épaisseur de la glace. Or, pour l'instant, on ne sait le faire très bien que quand on est sur la glace. Et sur le terrain, j'ai d'abord pensé m'en remettre aux techniques les plus modernes, à savoir les motoneiges. Et je me suis rendu compte que la motoneige n'était pas du tout adaptée à ce que je voulais faire. La technique moderne, c'est une chose. Vous verrez que nous l'utilisons largement dans cette expédition. Mais je crois que l'environnement polaire est un environnement très dur qui va nécessiter un corps à corps quotidien. Et il m'a semblé que de mon corps, je savais ce que je pouvais attendre. D'une machine, je ne savais pas. Et c'est en quoi j'ai changé l'optique au lieu de prendre des motoneiges, donc d'aller à ski.
Madeleine Griselin, en 1986, hein, qui emmenait donc cette expédition exclusivement féminine pour la première fois. Heidi Sevest, ça vous fait deux points communs, hein, finalement, avec Madeleine Griselin. D'abord, cette expédition 100% féminine, et puis cette idée de renoncer aux motoneiges. Vous aussi, vous l'avez fait, mais pas pour les mêmes raisons.
Oui, exactement. D'abord, je dois dire quel bonheur d'entendre la voix de Madeleine. C'est quelqu'un que j'admire énormément et qui a fait preuve d'énormément de bienveillance aussi envers moi et toutes mes idées un peu folles. Et c'est exactement ça. L'idée de faire corps finalement avec la nature peut être très très importante pour des travaux scientifiques. Et nous, la raison pour laquelle on a aussi décidé de se déplacer en ski, en tirant tout notre équipement derrière nous, c'était avant tout pour minimiser l'empreinte carbone que on allait avoir sur le terrain. Parce que ce qu'on allait mesurer sur cette expédition était extrêmement sensible à la moindre pollution. Donc on ne pouvait pas se permettre finalement de partir en scooter des neiges ou en hélicoptère.
Ouais, c'est-à-dire que vous préleviez un petit peu de neige et vous regardiez à quel point des dépôts de pollution humaine avaient atteint ces glaces lointaines.
C'est tout à fait ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on brûle des énergies fossiles, ça émet des particules fines. Et on en parle beaucoup dans nos régions en France parce que ces particules fines affectent la santé humaine. Mais il faut savoir que ces petites particules qui sont toutes légères, elles peuvent très facilement se faire transporter par les vents sur des milliers de kilomètres. Et elles sont de couleur noire, hein, c'est un peu de la suie. Et lorsqu'elles retombent sur des environnements, imaginez le Svalbard, très blanc, très propre, et finalement, on remarque que la neige et la glace s'assombrissent année après année. Et en s'assombrissant, ces surfaces fondent beaucoup plus rapidement. Alors c'est tout à fait ce qu'on a fait. On est allé récolter des petits échantillons de neige sur pratiquement 450 km pour étudier ce phénomène.
450 km sans être motorisé, à ski, vous tiriez ce traîneau avec toutes vos affaires, ce traîneau que l'on appelle Pulka. Combien de kilos traîniez-vous derrière vous pendant cette expédition ?
Ah, ça, c'était vraiment le nerf de la guerre. C'est vrai que chaque gramme compte dans ces situations-là. Et ma Pulka, malheureusement, était un petit peu plus lourde que moi. Elle faisait pratiquement 70 kilos au départ de l'expédition. Ouais. Et ces 70 kilos, je les ai sentis à chaque pas. Ouais. surtout quand on doit traverser un paysage qui est aussi montagneux que le Svalbard. C'était pas facile.
Vous vous étiez entraîné, j'imagine, avant de partir. De quelle manière ?
L'entraînement a été extrêmement intensif. C'est vrai que le meilleur entraînement pour la Pulka, donc pour tirer ce traîneau pendant des semaines et des semaines, il faut s'entraîner à tirer une charge. Et c'est vrai que moi, je suis basée à Annecy, dans les Alpes. Et la meilleure solution, c'était finalement de tirer des pneus de voiture accrochés à un harnais que j'avais autour de la taille. Et j'ai passé pratiquement 2 ans à tirer des pneus dans les montagnes autour d'Annecy.
Ah oui ?
Et je peux vous dire que les réactions que j'ai eues chaque jour d'entraînement ont été assez cocasses. Ah oui, ça casse assez vite la glace.
Oui, c'est ça, c'est le cas de le dire. En tout cas, ça ne devait pas passer inaperçu. Et évidemment, cet entraînement a payé sur place. Vous avez eu à affronter des conditions climatiques rudes, presque plus rudes que ce à quoi vous vous attendiez.
Oui, on a été extrêmement choqués par les conditions qu'on a eues. C'est vrai qu'on avait choisi le mois d'avril, qui est le mois le plus propice à ce genre d'expédition, qui est généralement très stable au niveau de la météo, beau mais froid. Et finalement, pendant les premières semaines de l'expédition, nous avons eu tempête après tempête après tempête. Et les tempêtes là-haut, quand on est aussi vulnérable, ça peut être extrêmement dangereux. On s'est vraiment retrouvé dans des situations de vie ou de mort pendant les 15 premiers jours de l'expédition, face à des vents jusqu'à 140, 150 km/h. On ne reconnaissait vraiment plus le Svalbard qu'on aime tant.
Oui, c'est-à-dire que là, c'est directement lié. Vous n'avez pas eu de chance en ce mois d'avril d'avoir ce temps-là ou c'est déjà les effets du changement climatique qui sont à l'œuvre ?
C'est ça. C'est aujourd'hui une des conséquences directes du changement climatique. Ça fait plusieurs décennies que mes collègues scientifiques prévoyaient ce genre d'impact au Svalbard, que l'augmentation des températures allait engendrer des phénomènes météorologiques extrêmes. Et pour nous, qui sommes toutes scientifiques dans l'équipe, vraiment de voir ça et de le prendre littéralement en pleine face tous les jours, ça nous a considérablement choqués. Déjà, évidemment, on avait peur pour notre vie, mais on s'est rendu compte à quel point ces changements se déroulaient encore plus vite qu'on le pensait.
C'est-à-dire qu'à votre échelle, vous qui avez mis les pieds il y a un peu plus de 10 ans au Svalbard pour cet échange Erasmus, vous voyez déjà le territoire changer en si peu de temps.
Oui, en si peu de temps, le paysage est déjà métamorphosé, complètement bouleversé. Il y a des glaciers que je connais bien, que je vais voir chaque année depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant, qui ne ressemblent plus du tout aux glaciers que je connaissais en 2008. Et pendant cette expédition, on avait des cartes, évidemment, pour se repérer, pour tracer notre route. Et finalement, les cartes ne nous servaient plus à grand-chose parce que le paysage n'était plus du tout le même que le paysage des cartes.
Je parlais de cet Erasmus que vous avez fait, donc jeune étudiante en licence au Svalbard. Comment on décide, même si on est passionné de glace, si jeune, de partir pour l'université la plus au nord de la planète ?
Je crois que mes parents n'ont toujours pas très bien compris.
Mais oui, ça a dû surprendre quand même votre entourage.
Justement, je me souviens de ma maman qui avait pris une carte de la Norvège et qui avait fait tous les fjords, elle les avait tracés avec le doigt pour chercher ce fameux archipel, cette fameuse île du Spitzberg, qu'il n'avait pas trouvé parce que finalement, le Spitzberg est beaucoup, beaucoup plus au nord. Mais ce que je cherchais à l'époque, c'était, je pense, l'idée d'évasion, d'essayer d'aller le plus loin possible. Je viens d'un petit village de Haute-Savoie et là, on m'offrait finalement la possibilité d'aller un petit peu là où je le souhaitais. Et un de mes meilleurs amis à l'époque m'a dit, écoute Heidi, pourquoi est-ce que tu regarderais pas l'université du Spitzberg? Je lui ai dit, mais de quoi tu parles, le Spitzberg, là, cet endroit tout au nord? Dans l'article, il m'a dit, oui, il y a une université là-haut. Et évidemment, je me suis jetée sur l'ordinateur, j'ai googlé tout ça, et je suis tombée sur des photos du Svalbard, juste incroyables. Des paysages de neige, de glace, une lumière comme on n'a pas ici dans les Alpes. Et je suis tombée, ça a été le coup de foudre, je suis tombée amoureuse immédiatement de cet endroit, même sans y avoir posé les pieds. Et après, j'ai tout fait pour pouvoir y aller.
Ouais, et pour y retourner, hein, c'est-à-dire que c'est un coup de foudre qui s'est inscrit dans la durée, puisque vous avez aussi fait votre thèse là-bas. Alors là, c'était une thèse de 4 ans. Faut imaginer quand même cet endroit perdu, avec parfois des périodes de l'année où il fait nuit tout le temps, d'autres où il fait jour tout le temps. Enfin, c'est des conditions rudes. Vous y avez fait votre thèse. C'est un bon souvenir, ces 4 années passées dans cet univers singulier?
Ah, je crois que si je pouvais recommencer demain, je pourrais m'avaliser immédiatement. Ouais. Mais ça a été vraiment extraordinaire. C'est vraiment le sentiment d'être privilégié quand on est là-haut. Ouais. Parce qu'on fait face à cet environnement très pur qui, malgré tout, est influencé par les impacts des activités humaines. Mais aussi le privilège, voilà, d'être scientifique au cœur de l'Arctique et de pouvoir faire des campagnes de terrain tous les jours. Et ce que j'aime beaucoup aussi là-haut, c'est qu'il y a une toute petite communauté. Il y a à peu près 2500 habitants dans la ville principale de Longyearbyen. Et il y a énormément de bienveillance, énormément d'entraide. Et c'est vrai qu'on va souvent au Svalbard pour la nature, mais quand on quitte le Svalbard, ce qui nous manque, c'est cette communauté.
Ouais. Et vos recherches scientifiques sur le terrain portaient sur ce qu'on appelle les surges. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est quoi exactement les surges?
Alors, vous le prononcez bien, en fait, il n'y a pas vraiment de traduction française, c'est surge, le mot en anglais. Et ça décrit en fait un phénomène extraordinaire que l'on observe tout le temps au Svalbard, assez facilement. C'est que quand on imagine un glacier, souvent on a l'impression qu'il est relativement passif, qu'il ne se passe pas grand-chose, que les glaciers sont pratiquement statiques. Bien au contraire, en fait, les glaciers sont toujours en mouvement. Alors, il y en a qui sont très rapides, il y en a qui sont très lents. Ce qui se passe au Svalbard, c'est qu'on a des glaciers. Alors, imaginez hein, vraiment des géants de glace qui font des dizaines et des dizaines de kilomètres, des centaines de mètres d'épaisseur. Des glaciers qui peuvent changer de comportement. Donc, de passer d'un état pratiquement statique, donc un paysage qu'on a l'impression être immuable, et finalement, l'année suivante, à la place de ce glacier tout calme, on a une sorte de bulldozer qui accélère, qui s'étire en direction de l'océan. Et c'est le phénomène que j'étudiais, qu'on comprend pas encore très bien aujourd'hui, mais on commence un petit peu à creuser ce qui se passe dans le ventre des glaciers qui surgent.
C'est-à-dire qu'un glacier qui surge, il peut avancer de 100 mètres par jour. En fait, il dévale la pente à ce moment-là.
Alors, c'est des glaciers qui sont extrêmement rapides. Et c'est vrai qu'au Svalbard, ceux que j'étudiais, ils pouvaient avancer jusqu'à facilement 40-50 mètres par jour. C'est un véritable monstre de glace qui descend de la montagne. On l'entend craqueler, il fait beaucoup de bruit, il secoue tout le paysage autour de lui. Et pourquoi est-ce que ces glaciers sont importants? Parce que quand il s'étire en direction de l'océan, eh ben il va finalement perdre une grande quantité de glace très rapidement dans l'océan. Et tout ça, ça contribue directement à l'élévation du niveau des mers. Et puisqu'on ne les comprend pas tout à fait, ces surges, eh ben, on les ignore dans nos modèles de prévision de hausse du niveau des océans aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire.
Ouais. Et vos recherches sur ces surges vous ont valu de faire la couverture de la prestigieuse revue Science. Depuis, votre passion pour les glaciers ne vous a pas quitté. Vous êtes allé les étudier en Antarctique, mais aussi sous les tropiques, car il y a des glaciers tropicaux. Vous allez nous raconter ça. La glaciologue Heidi Sevestre nous emmène bivouaquer sur les glaciers du monde cet après-midi sur France Inter.
L'avalanche le soleil te brûle et que l'air froid te glace. Tu défies l'espace, insolente insouciance. Pressant l'avalanche. Voilà qu'elle se rapproche, tendre tonnerre. L'avalanche accélère, rapide et légère.
Arthur H, l'avalanche sur France Inter, dans le temps d'un bivouac.
C'est la tempête, le blizzard. Le froissement de la neige poussé par le vent, jusqu'ici musique comme celle de la brise dans les Landes, ou les accès de colère de la tempête, cacophonie wagnérienne, d'un seul coup deviennent hurlements, sanglots, hystérie paroxysmique. Nous ne voyons plus rien. La neige, dense, dure, glacée, crépite sur nos vêtements, burine nos visages. Le vent furibond pèse sur nos poitrines, fait claquer nos anoraks sur nos flancs, les manches sur nos bras, les pantalons sur nos genoux, transperce le tissu, nous traverse de part en part, malgré nos multiples couches de vêtements protecteurs. Il nous empoigne à pleine griffe, cherche à nous foutre par terre, à nous retourner, à nous rouler dans la neige, à nous terrasser, à nous déchirer. Un seul désir, lancinant comme une douleur, comme une blessure, nous arrêter, nous coucher, ne plus nous relever, jamais. Nous aspirons au néant.
Extrait d'un récit autobiographique de Paul-Émile Victor intitulé « Mille horizons blancs » lu par Eric Oswald. Ce récit de tempête évoque peut-être quelques souvenirs à notre invité d'aujourd'hui, la glaciologue Heidi Sevestre. Des tempêtes aussi violentes, vous en avez connues lors de vos expéditions sur les glaciers du Spitzberg, Heidi Sevestre?
Oui, j'en ai des frissons rien que d'entendre ces paroles et ça me rappelle quelques souvenirs, notamment lors de ma dernière expédition. C'était dès le début de notre voyage, on commençait à peine à se faire au rythme du tirage de Pulka en ski et on a eu une tempête qui a duré 3 jours pendant laquelle on a dû s'enterrer dans le manteau neigeux pour éviter de tout perdre, de perdre nos tentes, nos Pulkas, nos skis.
Oui, pour éviter que tout s'envole, il a fallu que vous creusiez un trou et que vous abritiez à l'intérieur.
C'est exactement ça, et croyez-moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, j'en ai vu des tempêtes, mais alors cette tempête arctique a été particulièrement corsée.
Ouais. Vous avez aussi connu des tempêtes en Antarctique, parce que vous avez fait des expéditions un peu sur tous les continents pour étudier ces glaciers, et vous êtes allé en Antarctique, donc là on est côté pôle sud. Vous avez aussi connu des conditions difficiles?
Oui, alors l'Antarctique, c'est vrai que quand j'y suis allée, j'avais l'impression de connaître par cœur les régions polaires. J'avais déjà passé 4 ans au Svalbard. Et pourtant, l'Antarctique m'a vite rappelée à Londres. Ouais. Je suis partie sur la péninsule pour une expédition d'un mois. Et là, les tempêtes ne durent pas quelques heures, elles durent plusieurs jours. Et j'ai des souvenirs de passer pratiquement une semaine coincée dans la tente. On connaît très bien ses camarades d'expédition dans ces cas-là.
Ouais, ouais, il faut savoir composer avec la promiscuité, avec les défauts des autres et puis avec aussi son caractère à soi dans ces moments-là.
C'est exactement ça, voilà, il faut être plutôt flexible et puis voilà, on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même tente, donc on attend que ça passe et puis le soleil revient toujours après.
Alors, quelle différence il y a entre les glaciers que l'on trouve en Arctique, sur le pourtour de l'Arctique, hein, puisqu'au centre c'est un océan gelé, l'Arctique, et les glaciers que l'on trouve en Antarctique?
Alors c'est une question très intéressante. Les glaciers finalement sont faits de la même chose, mais la différence principale entre l'Arctique et l'Antarctique, c'est véritablement la taille des glaciers. C'est vrai que si on fait fondre toute la glace, tous les glaciers de l'Arctique, l'océan augmenterait d'entre 6 à 7 mètres, ce qui est quand même déjà majeur, absolument monumental.
Donc là, c'est si on fait fondre toutes les glaces qui se trouvent autour de l'océan Arctique, donc du côté pôle Nord, ça augmente de 6 à 7 mètres. Si on fait le même exercice terrifiant de pensée avec le pôle sud, l'Antarctique, qu'est-ce qui se passe?
Alors là, c'est pas du tout la même chose, pas la même échelle. Si tous les glaciers de l'Antarctique venaient à disparaître, c'est 58 mètres d'élévation globale du niveau des mers.
Mais est-ce qu'on en est là aujourd'hui? C'est-à-dire avec les changements climatiques en cours actuels, est-ce qu'on craint de faire fondre la calotte polaire antarctique?
Oui, véritablement, aujourd'hui, la situation est catastrophique quand on regarde ce qui se passe au niveau de la neige et de la glace. Et même ces géants de glace qui sont le Groenland et l'Antarctique sont terriblement affectés par ce qui est en train de se passer. Et on se rend compte que cette fonte, elle ne va pas que dans un sens, elle peut s'accélérer, elle peut devenir extrêmement brutale. Sur l'échelle des temps géologiques, il y a eu des périodes pendant lesquelles on a perdu le Groenland, on a perdu une partie de l'Antarctique. Et si ça s'est passé il y a plusieurs centaines de milliers d'années, ça peut forcément se reproduire aujourd'hui. Mmh. Et tous les signes, malheureusement, sont en train de pointer dans une direction, c'est que ces calottes polaires sont en train de se déstabiliser et qu'elles vont pouvoir contribuer encore plus à l'élévation du niveau des océans.
Mais le Groenland pourrait, dans un avenir relativement proche, redevenir une île entièrement verte?
Alors, toute la question, c'est combien de temps est-ce que ça risque de prendre? Mais en fait, il faut d'abord se concentrer sur les températures, plus que sur le temps que ça va mettre. On sait aujourd'hui qu'on a gagné 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle. Alors, l'ère pré-industrielle, c'est autour des années 1850. Donc, plus 1,1 degré. Si on dépasse les 1,5 degrés, on risque de déclencher des déstabilisations irréversibles du Groenland et de l'Antarctique. Mmh. Et finalement, voilà, plus on émet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus on est en train de courir vers les 1,5 degrés. Une fois qu'on les aura franchis, on ne pourra plus arrêter la déstabilisation du Groenland et de l'Antarctique.
Mais quand même, en Antarctique, quand on parle de couches de glace d'épaisseur, de 4 kilomètres d'épaisseur, hein, 4 kilomètres d'épaisseur en Antarctique, il faudrait quand même, avec des températures de moins 60 degrés, on pourrait faire fondre tout ça?
Oui, l'Antarctique est vraiment un géant au pied d'argile. C'est vrai que le souci autour du pôle sud, c'est avant tout la température de l'océan. Et l'océan austral, autour de l'Antarctique, est en train de se réchauffer considérablement. Et finalement, une grande partie des pieds de l'Antarctique, de la base de l'Antarctique, est dans l'eau. Et cette eau se réchauffe. Et ainsi, l'Antarctique est en train de fondre par-dessous, ce qui accélère cette déstabilisation.
Alors, Heidi Sevestre, vous ne vous êtes pas seulement intéressée aux glaciers de l'Arctique et de l'Antarctique. Vous êtes aussi allée en Patagonie, sur les glaciers de la Cordillère des Andes, à la rencontre des scientifiques qui étudient ces glaciers, qui provoquent parfois des raz-de-marée glaciaires. Pour la série, c'était pour la série documentaire Terre extrême de France 5 que vous étiez rendue au Chili.
Ici, John, on est tout contre ce lac qui est à la marge du glacier. Et c'est là qu'ils peuvent causer pas mal de problèmes ici en Patagonie.
Oui, ils causent des catastrophes naturelles. Nous les appelons des gloffs, des vidanges brutales d'un lac glaciaire. Un lac comme celui-ci atteint un certain niveau, puis se vide brutalement, en causant d'immenses inondations dans les régions en aval. Le niveau de cette rivière augmente de 8 mètres en 24 heures. Quand ces gloffs se forment, ils entraînent le chaos en aval, pour les habitants et leur bétail.
Alors c'est très impressionnant, hein, ces gloves, ces raz-de-marée glaciaires dont vous a parlé John, ce scientifique de l'université de Bristol. Heidi Sevestre, c'est une menace imprévisible pour les gens qui vivent à proximité de ces glaciers, ces raz-de-marée glaciaires?
Oui, c'est extrêmement difficile de prévoir quand est-ce qu'un glacier va se mettre à relâcher une grande quantité d'eau qu'il avait bloquée ou qu'il avait emmagasinée en son sein. Et c'est vrai que dans les régions telles que la Patagonie ou les régions en Himalaya, qui ont peu de dispositifs pour prévenir les populations, et ben finalement, on fait face à des catastrophes pratiquement chaque année.
Même, oui, en Himalaya également. Il faut imaginer des sortes de raz-de-marée en pleine montagne.
C'est un véritable tsunami, c'est une lame d'eau qui descend de la montagne au galop et qui détruit tout sur son passage. On ne peut vraiment pas les arrêter. J'ai eu la chance, avant de faire ma thèse au Svalbard, de partir au Népal pour étudier précisément ce phénomène. Et on a parcouru des vallées entières dévastées sur des dizaines et des dizaines de kilomètres parce qu'en amont, un glacier avait beaucoup fondu, avait formé un lac. Et ce lac, finalement, peu de choses le retenaient. Et au bout d'un moment, le lac avait pu être relâché et avait tout détruit sur son passage. C'était vraiment très choquant.
Alors, il y a ces scènes parfois apocalyptiques que déclenchent les glaciers. Ils jouent aussi un rôle important sur les écosystèmes alentour. Ça, vous l'avez bien noté quand vous êtes allé au Chili, mais vous l'avez vu à d'autres endroits. En fait, ils ont un impact sur la vie autour d'eux.
Et ça, c'est vraiment fascinant. On s'attendait pas à trouver cette connexion, finalement, entre ces glaciers qui sont vraiment faits d'un élément très minéral, mais finalement, ces glaciers peuvent donner la vie de différentes façons. Déjà par l'eau qu'ils amènent, par le microclimat qu'un glacier va créer, parce qu'évidemment, il est très froid. Mais on se rend compte aussi que les glaciers, lorsqu'ils perdent cette eau de fonte, lorsqu'ils relâchent des icebergs, il n'y a pas que de l'eau, il n'y a pas que de l'eau liquide là-dedans, il y a aussi énormément de minéraux. Et ces minéraux, lorsqu'ils sont déchargés dans des fjords, dans des rivières ou dans des océans, fertilisent le phytoplancton, donc qui est vraiment toutes ces micro-plantes à la base de la chaîne alimentaire.
Ouais.
Et je trouve ça fascinant, voilà, de voir cette connexion et de se rendre compte que ces glaciers peuvent donner la vie.
Ouais. Alors on trouve aussi des glaciers sous des latitudes auxquelles on ne s'attend pas finalement sur Terre, puisqu'on en trouve aussi sous les tropiques. Vous vous intéressez à ces glaciers tropicaux. On peut en trouver où exactement des glaciers tropicaux, Heidi Sevestre?
Alors les glaciers tropicaux, il y en reste à peu près 3000 aujourd'hui dans le monde, ce qui est quand même pas mal. Et ils sont tous à cheval sur l'équateur. Mmh. Ils sont dans trois régions principales. Il y a l'Amérique centrale, il y a l'Afrique de l'Est. Et la dernière, qui est complètement folle je trouve, cette région, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mmh. Il y a encore des glaciers le long de l'équateur dans ces régions-là.
Alors ces glaciers, on imagine qu'ils sont particulièrement menacés en se trouvant à ces latitudes avec le changement climatique.
Oui, c'est vraiment les glaciers qui sont sur cette ligne de front du dérèglement climatique. Aujourd'hui, malheureusement, il est trop tard pour sauver les glaciers tropicaux. On sait que ces glaciers sont hérités des anciennes aires glaciaires et qu'une augmentation de température de 1 degré, eh ben, ça signe leur arrêt de mort. Et je trouve que ces glaciers-là, on les a un peu oubliés. Ils sont pas aussi beaux, aussi gigantesques que les glaciers alpins ou les glaciers polaires, mais ils sont encore très importants aujourd'hui, mais ils sont voués à disparaître.
Alors on va en prendre le temps d'en parler dans la suite de cette émission. Et puis, vous allez aussi nous parler de l'avenir de nos glaciers dans les Alpes, Heidi Sevestre, dans la suite du Temps d'un bivouac. Ce sera juste après Alina Orlova, chanteuse lituanienne. La chanson s'intitule « Vaidio Kliai ».
Yes. сіла з повірстелю, однявся свідо окліс.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Est-ce que tu nous entends, Memphis ? Allez, on va aller sur la mer de glace aujourd'hui, le plus grand glacier français.
Tu vois, la surface de glace, elle était là il y a 20 jours.
Il y a 20 jours, on se serait tenu là avec nos pieds.
Ouais, exactement.
104.
Et ben voilà, donc on a perdu 1 mètre de glace en 20 jours, qui fait à peu près entre 4 et 5 cm de fonte journalière.
C'est un rythme important, ça.
La misère.
Cette balise, tu l'avais posée quand ?
Il y a un an. Et le principe, tu vois, c'était que les 5 jalons que tu vois là, ils étaient tous sous la glace.
Ça paraît fou.
Quasiment 10 mètres d'ablation.
La glaciologue Delphine Six avec le journaliste Hugo Clément constatant l'impressionnant recul de la mer de glace. Vous le connaissez bien, Heidi Sevestre, hein, ce glacier des Alpes, vous qui êtes née et qui avez grandi près d'Annecy, pas très loin hein, de ce glacier. À quand remonte le recul de la mer de glace ?
La mer de glace, c'est un glacier qui réagit assez vite au dérèglement climatique. Aujourd'hui, le retrait qu'on observe a été initié autour des années 1880-1890. Mais ça s'accélère, c'est surtout ça le souci aujourd'hui.
Ça s'accélère dans quelle proportion ? C'est-à-dire que la mer de glace, ce glacier est-il condamné à un siècle d'échéance ?
Très clairement, aujourd'hui, si on continue dans la direction qu'on est en train de prendre, c'est-à-dire d'émettre de plus en plus de gaz à effet de serre chaque année, la mer de glace peut disparaître d'ici la fin du siècle. Et c'est vrai, quand on évoque 2100, ça paraît très loin, mais c'est dans un petit peu moins de 80 ans maintenant, on peut complètement perdre la mer de glace, c'est sûr.
Alors, pour préserver certains glaciers dans les Alpes, certains scientifiques ont eu l'idée de les protéger avec des bâches. Ça a été fait sur plusieurs glaciers en Suisse, dont le glacier du Rhône, par exemple. C'est aussi pratiqué en Italie, sur le glacier de Presna. On fait ça aussi en France, Heidi Sevestre ?
Oui, ça se fait justement au niveau de la mer de glace et peut-être d'autres glaciers qui sont connectés à des stations de ski. Ces bâches blanches, elles sont hyper efficaces. Ça marche très bien sur des petites surfaces. Le coût de les installer est vraiment monumental et c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire à l'échelle de tous les glaciers du monde. Il y en a quand même 200 000.
C'est ça, parce que ça coûte très cher, même si ce sont des bâches qui couvrent plusieurs centaines, voire milliers de mètres carrés, on ne peut pas recouvrir tout le glacier. Et on imagine que ça n'est que donner un peu de délai, mais la solution ne passera pas par ça.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ces bâches, Je comprends qu'on les mette en place pour des notions économiques autour de stations de ski ou de sites touristiques, mais c'est un peu comme si on mettait un pansement sur la crise climatique. De toute façon, les températures continuent à augmenter et la seule solution aujourd'hui, qui malgré ce que l'on peut en penser, qui est la moins chère, qui est la plus efficace, c'est de se séparer des énergies fossiles le plus rapidement possible.
C'est-à-dire, en vous entendant, alors vous nous avez dit les glaciers tropicaux, c'est trop tard, ils disparaîtront. D'ailleurs, les expéditions que vous menez sur ces glaciers tropicaux qu'on trouve à cheval sur l'équateur, c'est plutôt pour prendre des données scientifiques avant qu'il ne soit trop tard. En fait, c'est pour recueillir le maximum d'informations avant qu'ils ne disparaissent complètement. C'est ça.
C'est ça, et c'est vrai que ces petits glaciers tropicaux ont encore beaucoup de choses à nous raconter. Ils nous permettent de reconstruire le climat sur des endroits très ciblés, loin de tout, comme l'Océanie par exemple. Ils nous permettent aussi de comprendre toute la biodiversité qui s'est installée autour de ces glaciers. Et les travaux que je mène avec mon projet sur les derniers glaciers tropicaux visent à ça et à comprendre pourquoi est-ce que ces glaciers tropicaux reculent aussi vite, et aussi à créer comme une archive de ces pays pour que, une fois que ces glaciers auront disparu, finalement, on ne les oublie pas.
Donc, tous les glaciers ne sont pas menacés à la même échéance sur la planète, parce que les tropicaux, leur sort semble scellé. Pour les glaciers des Alpes, vous laissez une petite lueur d'espoir, si je vous entends bien.
Oui, c'est très important. C'est vrai qu'on a quand même de l'espoir. On sait aujourd'hui qu'on a cette fenêtre d'action qui est aujourd'hui entre 1,1 degré et 1,5 degré. On n'y est pas encore au 1,5 degré, mais on y court. Et pour garder l'espoir, il faut agir dès aujourd'hui. Il faut vraiment impérativement réduire nos émissions de gaz à effet de serre le plus vite possible. Pas que pour les glaciers, pas parce qu'ils sont beaux, parce que les glaciologues les trouvent intéressants, mais parce que ces glaciers ont un rôle extrêmement important à jouer sur nos pays, sur nos sociétés, sur nos économies. Sans ces glaciers, la vie va être beaucoup, beaucoup plus compliquée.
Alors ça, c'est un peu votre combat. C'est-à-dire que petit à petit, vous avez glissé de la recherche vers la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, vous essayez d'alerter le grand public, de faire un peu la passerelle entre les recherches scientifiques et puis la compréhension du grand public. Vous pensez qu'on n'a pas encore pris suffisamment conscience de à quel point le sort de ces glaciers est lié à notre vie sous nos latitudes ?
Oui, je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est pas malheureusement c'est pas à coup de rapports scientifiques, de courbes qui montent ou qui descendent ou de chiffres qu'on va y arriver. Il faut vraiment tout faire pour amener ces glaciers dans les salles de classe, dans les maisons de famille, dans les bureaux de grandes entreprises. Il faut que tout le monde comprenne intimement ce qui est en train de se passer. Parce que ces glaciers, voilà, c'est nos plus grandes réserves d'eau douce. C'est de l'eau qui sert à irriguer nos cultures, à refroidir nos centrales nucléaires. Ces glaciers sont très, très importants.
Oui, et ces glaciers, même de très haute altitude, en Himalaya, loin de tout, on y trouve aussi des traces de pollution, comme l'a constaté le glaciologue Patrick Ginot lors d'une expédition sur des glaciers himalayens.
On est dans un environnement qui nous semble super propre, mais en fait, on a des concentrations de poussière qui sont très élevées, et surtout des concentrations de suie, de black carbon, comme on dit, qui se déposent juste avant la mousson et qui auraient un impact sur la fonte du glacier. Les masses d'air remontent le bassin indien et remontent les vallées himalayennes. Et on a des concentrations qui sont largement supérieures à ce qu'on peut mesurer au centre de Grenoble pendant un pic de pollution, par exemple.
Heidi Sevestre, la pollution des humains atteint des glaciers dans des zones les plus reculées de la planète, à des altitudes au-delà de 5000 mètres et dans des quantités importantes, on l'entendait là. Ça paraît fou de pouvoir observer, à certains moments de l'année en tout cas, des pics de pollution aussi importants.
Oui, c'est terrifiant et on a remarqué justement au niveau de ces beaux glaciers de l'Himalaya que les effets des confinements en Inde l'année dernière avaient eu un effet très positif pour les glaciers. et que les glaciers, plutôt que d'être recouverts de pollution, d'être noircis et de fondre très rapidement, finalement ont repris un petit peu du poil de la bête l'année dernière. Malheureusement, ça va rester un phénomène très temporaire.
Ouais. Alors, ce qui est étonnant avec vous, Heidi Seves, c'est que vous semblez garder un moral, un optimisme à toute épreuve face à tous ces constats alarmants. Pourtant, le dernier rapport du GIEC paru le 9 août dernier est venu nous le rappeler. La situation se dégrade de plus en plus, il devient urgent d'agir. Mais pour vous, on peut encore agir et qu'est-ce qui peut encore être sauvé en fait ?
On peut encore agir en effet et je pense que c'est essentiel que des personnes comme nous, les glaciologues qui avons les deux pieds sur les glaciers, gardent cet espoir. On sait aujourd'hui qu'on a les technologies, on a les moyens, on a l'enthousiasme pour combattre ce dérèglement climatique. Et là où ça pêche le plus, malheureusement, c'est vraiment au niveau des instances politiques qui semblent ne pas comprendre l'ampleur du phénomène. Et j'ai souvent l'occasion de discuter autant avec des gouvernements qu'avec les jeunes générations. Et quand je vois ce qui se passe au niveau des jeunes générations, la niaque qu'ils ont, l'envie, l'enthousiasme de changer notre système et de créer un système qui est vraiment en accordance avec les phénomènes naturels, ça me donne beaucoup d'espoir. Mais je sais que la lutte va être très dure, mais que finalement, on n'a pas le choix. Il faut tout faire pour éviter de dépasser ces 1,5 degrés.
Merci Heidi Seves. Je rappelle que vous êtes glaciologue à l'ICSI. On peut suivre vos expéditions et vos travaux sur votre site internet. Nous allons mettre un lien sur la page du Temps d'un bivouac. Un grand merci à vous, Heidi Seves.
Merci Daniel.
Et merci à Julien Pichon-Martin, à la technique de France Bleu Pays de Savoie pour le duplex. Dans un instant, comme tous les lundis, nous partons avec Éric Birloez pour la dernière odyssée savoureuse de l'été. Il nous emmène sur les routes de la Grenade. He's wearing the doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's got the cures we need. Say how hard it's been, and how easy it'll be. He's wearing the doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's wearing the doctor's coat, but in his hand is the ring.
His solution levels it up against the sun, a sick kind of revolution. The red glow in his face making him look like the son of God.
C'était Darkside, Lawmaker sur France Inter. La programmation musicale de cette émission est signée Thierry Dupin.
Sens-moi ça, ça sent bon. Ça sent le jardin, ça sent les quatre saisons, ça sent la terre.
C'est le moment de repartir pour une nouvelle odyssée savoureuse avec notre sociologue de l'alimentation préférée, Éric Berloez. Bonjour Éric.
Bonjour Daniel.
Alors sur la piste de quel aliment nous emmenez-vous pour votre dernière chronique de l'été ?
Déjà la dernière. Eh bien, je vais vous parler d'un fruit qui autrefois était très présent dans le midi de la France et puis qui avait disparu. Un fruit qui revient en force malgré tout depuis quelques années pour une raison simple. Parce que c'est une véritable bombe. Une bombe de nutriments bénéfiques à notre santé. Et cette bombe, c'est la grenade. Bon, le jeu de mots est un peu facile.
Oui, je vous l'accorde. Mais alors, d'où elle vient cette grenade ? Quelle est son origine géographique ?
Alors, voyageons un peu. Cette grenade, c'est le fruit du Punica granatum, ou grenadier, c'est un petit arbre dont les fleurs ont une très jolie couleur rouge-orangée. Son berceau, c'est une vaste zone géographique qui couvre une partie de l'Asie centrale, le Caucase, le nord de l'Iran, le Turkménistan, jusqu'au nord de l'Inde. Le grenadier, c'est d'ailleurs un des plus anciens arbres fruitiers que l'homme a domestiqué, un arbre très adaptable à des terrains variés et à des climats variés.
Justement, comment le grenadier a-t-il été diffusé en dehors de son berceau ?
La grenade, elle était appréciée par les Phéniciens, par les Grecs, par les Romains, des peuples commerçants ou conquérants qui vont diffuser la culture du grenadier dans tout le bassin méditerranéen. Jadis, l'arbre était très présent dans le sud de la France, notamment en Provence. Jusqu'à la Renaissance, on utilisait principalement la grenade à des fins médicinales. Mais sous Louis XIV, elle commence à entrer dans des recettes de sauce notamment. Mais à partir du XIXe siècle, la grenade du Midi va entamer son déclin.
Comment ça s'explique, ça ?
Eh bien d'abord parce que la vigne est plus rentable, tout simplement. Et puis il y a une autre raison qui est que la grenade, c'est un fruit qui n'est pas très pratique à éplucher. Son écorce est coriace. Et elle va aussi pâtir de la concurrence des agrumes produits dans les colonies. Alexandre Dumas va écrire d'ailleurs à propos de la grenade « Ce fruit ne sert qu'à garnir les corbeilles de dessert, où il est d'un fort bel effet. » Et un peu plus loin, il ajoute « On fait avec la grenade un sirop appelé grenadine qui est très bon pour la toux sèche ou l'irritation. » Inutile de vous dire, Daniel, que la grenadine d'aujourd'hui ne contient pas un seul grain de grenade.
Ah bon ? Mais quelle désillusion ! Alors la grenade a sans doute eu une dimension symbolique.
Oui, elle est même d'ailleurs le symbole d'une ville, celle de Grenade. Elle orne le blason de la cité andalouse. Et puis c'est aussi le symbole national de l'Arménie, où on la nomme carrément fruit du paradis. Selon une légende arménienne, une grenade contiendrait à combien de grains, à votre avis, Daniel ?
Allez, 500.
La légende dit 365 exactement, c'est-à-dire un grain par jour, ce qui, paraît-il, éviterait de mourir de faim du début à la fin de l'année. Bon, personnellement, ça me paraît un peu léger quand même. En réalité, selon les fruits et les variétés, il peut y avoir entre 400 et 800 petites graines. Elles ont une forme triangulaire, elles sont constituées d'un pépin unique, entouré d'une pulpe translucide de couleur rouge. Et c'est d'ailleurs l'origine du mot « grenat ».
Ça fait donc beaucoup de petits grains.
Et oui, et c'est ce qui explique que la grenade ait été, depuis l'Antiquité, synonyme d'abondance, de prospérité, symbole de fertilité et aussi de beauté et d'amour. Chez les chrétiens, la grenade était une allégorie de l'Église qui accueille en son sein de nombreux fidèles rassemblés par une seule et même foi. Et par sa couleur rouge, elle symbolisait également le sang du Christ versé lors de la Passion. Autre exemple, dans la franc-maçonnerie, une ou plusieurs grenades sont représentées au sommet des deux colonnes qui ornent l'entrée des temples maçonniques. La grenade possède une peau dure et ses grains sont très serrés, ce qui symbolise à la fois la difficulté d'entrer dans la maçonnerie et la cohésion, la solidarité de ses membres.
Et en pratique, comment la consommer cette grenade, Éric ?
Eh bien, beaucoup de cuisines du monde, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Inde, utilisent la grenade comme ingrédient ou comme condiment dans des préparations salées. On parsème les graines fraîches sur une salade, une purée d'aubergine, un couscous, un tagine, une crème aux amandes. En Inde, au Pakistan, on les écrase dans les viandes. Avec la grenade, on peut élaborer du vin de grenade en faisant fermenter le jus de certaines variétés. On le faisait déjà dans l'Égypte antique. Alors aujourd'hui, on produit plutôt du vinaigre de grenade et puis surtout, bien sûr, du jus de grenade. En Iran, au Liban et dans d'autres pays du Moyen-Orient, on utilise beaucoup la mélasse de grenade. C'est un sirop épais, très foncé, qui est issu du jus d'une variété très acide de grenade, jus auquel on a ajouté du sucre et du jus de citron, et que l'on a fait réduire. Et cette mélasse, elle apporte au plat une saveur à la fois fruitée, sucrée et acidulée. Et on l'utilise aussi pour les vinaigrettes et les marinades. Bref, la grenade, par ses nombreux nutriments et par le plaisir gustatif et esthétique qu'elle procure, eh bien, c'est une arme de destruction massive contre tout ce qui peut nuire à notre santé physique et mentale.
Merci Éric Birloez. On peut retrouver l'ensemble de vos chroniques sur la page La Chronique d'Éric Birloez sur franceinter.fr. Je rappelle aussi le titre de votre dernier ouvrage, Petite et grande histoire des légumes, aux éditions Quae. Un grand merci à vous, Éric, de nous avoir accompagnés tous les lundis de l'été. C'était un vrai régal de vous écouter.
Réciproque. Merci beaucoup, Daniel.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Pour écouter cette émission en podcast, il y a les applis de Radio France et France Inter. Merci pour les messages que vous nous laissez sur la page Facebook du temps d'un bivouac et sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.